Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ? Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoires. Eh bien, bonjour. Nous allons retrouver nos amis les Indiens à la bataille de Little Bighorn. Quand je vous ai quitté la dernière fois, Crazy Horse poussait le cri de guerre des Sioux. Au carré ! Au carré, Lakota ! C'est un bon jour pour mourir. Regroupant quelques Cheyennes en renfort chemin faisant, il entraîna son monde au grand galop vers le nord. Loin sur sa droite, il avait aperçu un détachement de cavalerie monté sur des chevaux gris à hauteur du lit desséché de Medicine Tail Coulee. Mais ce ravin était bien défendu. Égal, accompagné d'une multitude de guerriers, chargeait dans sa direction. Les sabots de leurs chevaux engendraient un roulement de tonnerre qui se répercutait dans le fond de la vallée. La grande bataille était enfin engagée. Ce jour-là, alors que le gouvernement fédéral dépêchait le meilleur de ses régiments de cavalerie sous le commandement du plus brillant des pourfendeurs d'hommes rouges et le lançait à l'assaut du grand campement des Indiens, il se trouvait sur les lieux de nombreuses bandes de Sioux de l'Ouest, accompagnées de Sioux de l'Est, de Cheyennes venues du Nord et d'autres du Sud, sans compter quelques amis Arapahos. En plus des chefs et des guerriers, il y avait des femmes, des gens âgés et des enfants. Certains regardaient excités, criant leur joie ou manifestant leur effroi. D'autres s'avançaient déjà vers les terres basses situées à l'ouest et s'apprêtaient à prendre la fuite. Parmi ceux qui s'élançaient à cheval pour combattre, figurait un trio de jeunes garçons. Tous trois survécurent, connurent une longue vie et plus tard rapportèrent les impressions d'un adolescent élevé dans l'éthique d'un guerrier indien et tout à coup plongé dans la bataille de la Crazy Grass. Les épisodes qu'on leur doit sont aussi intimement liés à cette journée que le récit de Crazy Horse lui-même. Black Elk, un cousin de Crazy Horse, lui aussi Sioux Oglala, n'avait que 13 ans cet été-là. La nuit précédente, il avait participé aux danses tribales du camp, puis, fatigué, il était rentré. À l'aube, son père l'avait réveillé pour qu'il l'aidât à mener les chevaux au pâturage. « Tu laisseras une longue longe à l'un d'eux, pour qu'on puisse le rattraper aisément. » Ce cheval servirait alors à rassembler les autres. Le père lui donna aussi pour consigne de les ramener rapidement s'il se passait quelque chose. La chaleur de la journée augmentait et les eaux limpides de la rivière attirèrent Black Elk d'une façon irrésistible. Il laissa les chevaux à la garde d'un cousin et avec quelques autres jeunes, il alla se baigner. Alors qu'il jouait dans l'eau, le cousin entraîna les bêtes jusqu'au bord de la berge pour les faire boire au même endroit. « La cavalerie arrive ! La cavalerie arrive !» annonça soudain le crieur du camp des Umkpapa. Sans même prendre le temps de se défendre, le frère aîné de Black Elk se précipita au-devant des assaillants. Mais très vite, le père accourut, amenant des armes à ses deux fils. Ses instructions étaient claires. Black Elk devait porter un fusil à son frère, puis rentrer directement à son tipi. Cependant, après avoir rejoint Black Moon, qui repoussait avec quelques camarades cette attaque de cavaliers blancs, Black Elk ne put s'empêcher de rester sur les lieux. Lorsque Crazy Horse arriva, le garçon éprouva de l'orgueil à le voir acclamé de la sorte. Quand les Blancs rompirent le combat et battirent en retraite, Black Elk se mêla à ceux qui amorçaient une contre-attaque. Un guerrier Sioux lui désigna une tunique bleue qui se débattait au sol. « Garçon, saute de ton cheval, escape-le !» Black Elk mit pied à terre et commença la besogne. Il n'avait rien d'un espère et son couteau n'était pas aiguisé. Le mourant grinça des dents et le jeune indien lui tira une balle de revolver en plein front avant d'achever son travail. Chevauchant son poney alezan, il regagna sa demeure pour montrer le scalp à sa mère. La femme vit le trophée, émit un trémolo, un cri aigu de triomphe, laissant siffler par sa bouche tout en tapotant ses lèvres. Pour sa désobéissance, Black Elk ne fut pas puni ce jour-là. Après tout, à 13 ans, il venait de conquérir son premier scalp. Iron Hawk, faucon de fer, un Sioux papa, n'avait que 14 ans. Il avait passé la nuit entière à regarder les danseurs et dormi pendant toute la matinée. Il était en train de dévorer son premier repas de la journée lorsque les crieurs annoncèrent l'approche des Blancs. Iron Hawk se précipita vers les chevaux de la famille et prit son poney. La fusillade et les cris affolaient les autres montures et il fallut un certain temps au jeune garçon et à son frère pour les rassembler dans l'enceinte du camp des Oumpapa. Ensuite, Iron Hawk entra en courant dans le tipi familial pour se vêtir et se préparer à la bataille. Il tremblait tellement qu'il eut du mal à fixer la plume d'aigle dans ses cheveux et à peindre son visage en rouge. Il saisit son carquois, le plus lourd de ses arcs, puis il sauta sur son cheval. La première attaque avait déjà été repoussée et tous les cavaliers se dirigeaient vers le gué situé à la hauteur du milieu du camp. Iron Hawk les suivit. Chemin faisant, il poussait de grands cris de guerre pour s'encourager lui-même. Traversant le cours de la Crazy Grass, il piqua vers les colonnes de fumée et de poussière qui s'élevaient au-dessus des collines. Il vit la confusion des Indiens et des Blancs qui s'élançaient de ci, de là, les uns à cheval, les autres à pied, accomplissant des exploits, prenant des risques, tombant. Il ne participa à la bataille qu'au moment où un petit groupe d'ennemis fit irruption dans sa direction. Sortant des flèches de son carquois, il se mit à tirer. Presque aussitôt, il atteignit un des cavaliers blancs. La flèche s'enfonça dans jusqu'à l'empennage et la pointe rejaillit de l'autre côté. Le soldat poussa un cri et se cramponna à sa selle. Sa tête s'inclina, son corps oscilla et le jeune garçon lui administra un coup violent sur la nuque avec son arc. Le cavalier fut désarçonné. Le jeune garçon chuta sur sa victime et lui asséna des coups avec son arc, frappant et frappant encore, même après la mort de l'homme. À chaque coup, il hurlait « Haoum !» en pensant aux femmes et aux enfants effrayés qui couraient dans le campement. Il n'est pas impossible que cette attitude d'Iron Hawk ait été motivée par son excitation et sa propre peur. Autre jouvenceau, un Cheyenne de 18 ans qui s'appelait Wooden Leg, jambe de bois, participait lui aussi au combat. Loin d'impliquer une invalidité, ce surnom signifiait que ses membres étaient robustes comme des troncs d'arbres. En fait, la nuit précédente, il avait participé à des danses dans un camp Sioux à la demande des jeunes filles. Il était en effet de coutume chez les Sioux que les femmes invitent les hommes à danser. Ce jeune guerrier de plus de 1m80 était très aimé parmi les jeunes filles. Il dansa jusqu'à l'aube, puis Le corps là, il rentra. Pour ne pas déranger les siens, il dormit quelques heures à même le sol devant le tapis familial. Ensuite, il mangea et alla se baigner avec son frère. À l'ombre d'un arbre, près de la berge, les deux jeunes gens s'étendirent pour rattraper leur sommeil. Ils furent réveillés en sursaut lorsqu'on commença à se battre bien plus haut en amont de la rivière. Le père de Wooden Leg, un homme âgé, avait déjà attrapé et scellé le cheval de guerre favori de son fils, et celui-ci n'eut donc plus qu'à se préparer pour le combat. Il enfila ses plus belles jambières, une bonne chemise de tissu et des mocassins brodés de perles. Ensuite, il entoura son visage d'une couche de peinture bleu foncé et remplit ce cercle de rouge et de jaune. Si le grand esprit désirait l'appeler ce même jour, il voulait être vêtu en conséquence. Il aurait voulu huiler ses cheveux et les tresser avec soin, mais son père lui enjoignit de faire vite. Il se contenta donc de les attacher avec une lanière de daim et les laissa flotter. Pour toute arme, il avait un vieux revolver. Il prit ses amorces, ses balles, sa corne à poudre et remonta à cheval le long de la rivière pour gagner le champ de bataille. Wooden Leg arriva sur les lieux au moment où la première vague de cavalerie lâchait pied et il se joignit à un groupe de guerriers Sioux qui amorçait un large mouvement tournant autour des Blancs. Par milliers, les flèches volaient vers l'ennemi tandis que bon nombre de balles sillonnaient le ciel. Lorsque les Blancs émergèrent des arbres et des buissons sous le couvert duquel ils avaient trouvé refuge, Wooden Leg se trouva sur leur passage. Il fouetta son cheval et prit la fuite. Puis, il se rendit compte que l'ennemi décampait. Alors, faisant demi-tour, il le prit en chasse. Il fit feu 4 fois, mais sans résultat apparent. Les chevaux des Blancs étaient fatigués. Et il put rattraper un cavalier qui l'assomma avec le manche de son fouet en corne de Watipi. Comme le blessé tombait de cheval, Wooden Leg lui arracha son fusil. Et ensuite, il rallia les autres guerriers et avec sa nouvelle arme, il asséna plusieurs coups aux soldats blancs en fuite. Par la suite, Wooden Leg revient sur la rive ouest du cours d'eau pour aider à débusquer les ennemis encore cachés dans les broussailles fumantes qui achevaient de se consumer. Dans la poche d'un mort, il trouva un peu de tabac. Il défit ensuite la cartouchière du mort. Dans les fontes que portait un cheval mort, il trouva 2 petites boîtes contenant 20 cartouches. Et le calibre de ces munitions était identique à celui du fusil et de la cartouchière. À cet instant, comme il le raconta plus tard, il était ivre de bravoure. Il traversa les campements et rejoignit les siens pour chercher un sauvage frais. Il donna le tabac à son père et celui-ci dit qu'il avait suffisamment fait preuve de bravoure pour la journée. Et il lui conseilla de ne pas rallier les guerriers partis vers le nouveau combat qui se développait dans les collines de l'Est. Mais Wooden Leg tenait à se rendre dans les collines. Son père scella un cheval et fit une médecine qui devait le protéger. Il rappela au jeune garçon que son frère aîné combattait déjà et qu'il ne tenait pas à perdre ses 2 fils le même jour. Il lui demanda de se tenir aussi loin que possible des combattants. Wooden Leg chevaucha donc vers l'est, mais suivant les conseils de son père, demeura à une certaine distance de la bataille. Il fit feu de temps à autre, surveillant la progression de la lutte. Lorsque Crazy Horse descendit à cheval le long de la rivière, de campement en campement, pour glaner des guerriers dans son sillage, il commençait à comprendre la stratégie de l'ennemi. Attaquer l'extrémité amont du campement à l'aide d'une petite troupe d'assaillants pour attirer les guerriers indiens. Puis, s'en prendre aux installations disposées en aval et dépourvues de défenseurs en lançant à l'attaque les forces principales des tuniques bleues. Cependant, les blancs manœuvraient laborieusement dans les collines épuisantes pour les chevaux, alors que Crazy Horse disposait du fond de la vallée. En l'espace de quelques instants, il avait dépassé tous les campements et se trouvait au-delà des combats. À présent, il se rabattait vers l'est et franchissait un gué de la rivière qui ralentissait légèrement ses compagnons. Il leur fit ensuite remonter un ravin assez profond pour les cacher à la vue de l'ennemi. À cet endroit, les collines au sol d'un gris tirant sur le marron étaient tachetées de buissons de chauves dont chaque plan ressemblait à un minuscule arbre au tronc tourmenté, tout juste assez grand pour cacher un lapin. Ici et là, un yucca dressait sa tige aux fleurs d'un vent tendre, et les chardons isolés soutenaient des houppettes couleur lavande. À peine visibles, les vestes de la prairie avaient déjà fleuri, et leurs petites gousses se garnissaient de graines. Mais par endroits, les herbacées ne recouvraient pas la terre mise à nu par les pluies et les vents, de même que par les lourds sabots des chevaux. Plus haut, sur la rivière, les ravins étaient tapissés de bouquets de genièvre et d'amélanches. Ici, l'œil rencontrait surtout des coulées dénudées, pas la moindre falaise, ni berge abrupte, ni rocher saillant pour capter le regard. La terre était creusée de rides géantes, mais aux pentes assez raides pour que les chevaux y peinent. Cet emplacement rude et dénudé était idéal. Si des hommes devaient se rassembler pour s'entretuer, pourquoi ne le feraient-ils pas en ces lieux? Crazy Horse n'eut aucune difficulté à localiser la bataille. Gall et ses guerriers étaient déjà passés à l'action. Au-delà de la crête, la poussière grise s'élevait en tourbillon. Crazy Horse se dirigea dans cette direction. Le bec astré qui venait de retrouver son second souffle monta vivement à l'assaut de la pente. Crazy Horse eut un geste de la main pour arrêter le flot des guerriers et c'est seulement accompagné d'une demi-douzaine de chefs qu'il poursuivit son ascension. Non pas jusqu'au sommet de la crête, mais juste sur une position suffisamment élevée pour voir le panorama de la bataille. Le coup d'œil embrasait le terrain droit jusqu'au parage de Deep Coulee, à 3 km, et même au-delà de Medicine Tail Coulee. La Crazy Grass coulait à environ 1500 mètres à droite. Les blancs les plus proches n'étaient guère qu'à une portée de flèche, mais leur ligne s'étendait sur près de 800 mètres le long de la crête et jusqu'au fond d'un ravin. Attaqués sur leurs deux flancs, ils s'efforçaient de se regrouper. Un clairon s'obstinait à répéter la même sonnerie, mais les troupes étaient constituées d'une moitié de cavaliers et d'autres hommes à pied qui, pour la plus tard, un genou en terre, formaient des lignes de défense. Crazy Horse pouvait distinguer leurs chefs et les identifier. Ils se consultaient et criaient des ordres à leurs hommes. Ils se savaient en difficulté. Frapper rapidement, avant qu'ils aient décidé d'une conduite à tenir, achèverait de les paralyser. Un contingent de guerriers termina l'escalade du ravin dans le but d'encercler l'ennemi. D'un geste de son bras mince à la peau tannée, Crazy Horse fit signe aux guerriers restants de s'en prendre au centre de la ligne clairsemée de la cavalerie américaine. Portant à ses lèvres son sifflet en os d'aigle, il en tira un son aigu et projeta son cheval bai jusqu'au-delà du sommet de la crête. Il ne se retourna pas. Le temps de deux inspirations, Il n'entendit même pas le bruit des cavaliers montant derrière lui, car les chevaux, à l'assaut d'une crête, foulent silencieusement la terre de leurs sabots. En arrivant sur le sol plus horizontal marquant le début de la déclivité, le bruit de leurs sabots se mua en un véritable tonnerre. Guidant sa monture avec les genoux, Crazy Horse élevait haut en l'air son fusil et son casse-tête en pierre. Il était le symbole même de la bravoure des Sioux guidant ses guerriers à l'assaut de l'ennemi. Les cavaliers américains s'efforcèrent de faire face, mais dans une certaine confusion, car leur attention demeurait fixée sur l'attaque des guerriers de Galles menés dans la direction opposée. Crazy Horse vit une tunique bleue marquant un temps d'hésitation, essayant de se cacher dans les deux fronts en tournant autour d'un petit monticule couronné de sauge. Reprenant son équilibre un peu comme un danseur après une figure, le cheval bai, magnifique parce que faisant corps avec son cavalier, se laissa guider par Crazy Horse. Il piquait droit sur l'ennemi, droit sur les canons de leurs fusils. À présent, la poussière se faisait plus épaisse, mêlée aux fumées sales et sombres. Ce plein après-midi ressemblait aux ténèbres crépusculaires. Sous ce suaire, les éclairs des fusils dansaient comme de mystérieuses lucioles. Par moments, les détonations des carabines et des fusils rappelaient l'espace de quelques battements de cœur, une immense toile se déchirant dans les replis des collines. Abaissant son arme qu'il brandissait comme un fanion aussi haut que possible, Crazy Horse commença à tirer d'une seule main. Attaqués de part et d'autre, les blancs se dérobaient. Leurs chevaux ombrageux gênaient leurs propres tirs. Entre-temps, les guerriers de Galles étaient passés à l'attaque, profitant de la débâcle de l'ennemi. Les chevaux des cavaliers blancs hennissaient au-dessus du vacarme. Comme des chats, ils s'agrippaient aux pentes de sable gris. Les flèches et les balles les transperçaient, leur arrachant des gémissements. Ils luttaient contre leurs propres blessures et contre le poids de leurs cavaliers encore en selle ou traînant au bout des étriers. Leurs encolures et leurs flancs se tachaient d'une sueur blanchâtre et sale. Une écume ensanglantée tombait des morts sur lesquels les cavaliers tiraient par cruelles saccades. Le génie d'un chef consiste à garder les idées claires au milieu du vacarme et du désordre de la bataille. Crazy Horse évita de se lancer à la poursuite des fugitifs isolés. En compagnie de ses guerriers, il se ruait à l'attaque des groupes compacts d'ennemis, les obligeant à se dérober, à se fractionner ou à se laisser submerger. Les Indiens se glissaient parmi les combattants et leurs montures, tuant ceux qui tenaient les chevaux, faisaient fuir les animaux porteurs de sacs emplis de cartouches. Cette charge ressemblait à une immense pointe de flèche taillant à travers l'ennemi. Lorsqu'au bout de course, Crazy Horse s'arrêta, la cavalerie des Blancs connaissait le désarroi le plus complet. D'un côté du champ de bataille, un groupe de Sioux pourchassait un soldat isolé. Dans une course désespérée, il parcourut 1500 mètres. Puis, s'apercevant de l'inutilité de sa fuite, il se tira une balle dans la tête. Il n'y avait pour les Blancs aucun regroupement possible, aucune retraite. Les guerriers les cernaient et avaient progressé pour occuper les positions les plus avantageuses. Seuls, quelques replis du terrain et les carcasses des chevaux offraient des protections occasionnelles. Chaque petit groupe, chaque ligne de cavaliers se défendait contre un adversaire, alors qu'une autre attaque s'amorçait dans la direction opposée. Les courtes charges et les poursuites se succédaient. À la fin de la mêlée, le plus gros du travail fut effectué à la lance ou au casse-tête de guerre, alors que les fusils des Blancs se taisaient. En quelques instants, tout était fini. Alors que s'achevait cet engagement, il est facile d'imaginer Crazy Horse en selle sur son poney fourbu, regardant du haut de la crête ses frères d'armes anéantir les derniers îlots de résistance des Blancs. On ne tarderait pas à voir arriver avec leurs travois les femmes venues chercher les blessés et les morts. Elles déshabilleraient les Blancs et tailladeraient leurs restes. Cet instant appartenait au chef des Sioux. Custer gisait, sa volonté et son énergie anéanties à jamais. Sans doute Crazy Horse existait-il sans mot dire. Il savait parfaitement que la victoire n'avait rien de décisif, qu'il n'avait gagné qu'une bataille et non la guerre. Il se peut, malgré son intelligence, qu'aucune méditation philosophique ne lui soit venue à l'esprit. C'est davantage au fond de son être qu'au bord de ses lèvres qu'il ressentait les motivations de son attitude. Mais il aurait pu effectivement dire « Si vous voulez avoir l'avis d'un vieil homme médecine plein de sagesse, allez donc voir Sitting Bull, tout occupé à ses prières, ou retournez parler avec Red Cloud et ses amis blancs. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. » En ce qui concerne la suite, il semble qu'on ne puisse pas détacher cette sanglante journée des autres. Les écrivains ont multiplié les études et les monographies à son sujet. Ils en ont sondé les moindres péripéties et ont cherché à tout expliquer. Ils se sont complus à ressasser l'histoire encore et toujours. Selon certains, la bataille de Little Bighorn, avec Crazy Horse se dressant sur son cheval et Custer gisant au milieu de son corps d'élite anéanti, était un symbole autour duquel les bandes d'Indiens auraient pu se rassembler contre le Blanc, leur ennemi commun. Cette interprétation n'est pas sans objection. Les Crocs et les Arikaras s'étaient rangés du côté de Custer. Les Crocs pouvaient-ils abandonner leur long passé belliqueux qui les opposait aux Sioux, renoncer à des croyances ancestrales et se rallier à ces derniers à la suite d'une victoire remportée sur les Blancs? Parfaitement unis, les Indiens auraient pu tenir plus longtemps contre l'envahissement des Américains. Mais ils ne l'étaient pas. La leçon la plus claire que l'on puisse tirer de la bataille est que l'Indien des plaines possédait toujours sa dignité et était capable de se battre pour sa liberté. Cette guerre, il allait la perdre. Mais il était encore en mesure de remporter une victoire, en particulier dans ce type d'engagement. La grosse erreur du commandant adverse fut de ne pas comprendre la vérité. Tout dans les agissements de Custer prouvait cette évidence. « Je vous rencontrerai sur votre propre terrain, je vous donnerai la supériorité numérique et je vous battrai à plat de couture. » Certes, il pouvait faire venir des renforts de cavalerie et des canons Gatling, mais il ne le fit pas. Il aurait pu attendre une journée que d'autres unités le rallient sur le champ de bataille. Mais il pressa le mouvement. Il pariait sur sa conception du métier de soldat, sur sa notion de bravoure, sur ses qualités de cavalier, sur sa combativité et sur sa dévotion aveugle à une seule cause. Au cours de ce fatal dimanche 25 juin 1876, Custer renonça aux avantages que son passé de blanc lui donnait. Et ce faisant, il entendait ne rien laisser aux Indiens. En cet instant, immobile en selle sur la crête dominant le champ de bataille, Crazy Horse aurait pu s'écrier
« Aujourd'hui, soldats blancs, on vous a leurré !»
Mais c'était un beau jour pour mourir. Eh bien voilà, c'est sur cette bataille de Little Bighorn que je vais vous quitter sur cette histoire des Indiens des Plaines. Les Indiens, on les retrouvera peut-être plus tard dans d'autres émissions parce que c'est un sujet qui me passionne et que je crois que l'on ne connaît pas assez, qu'on nous a raconté d'une certaine façon qui est loin d'être l'exactitude. En attendant, je vais dire un merci à Nico qui va mixer cet enregistrement, puisque cet enregistrement, je l'ai fait depuis chez moi, puisque je ne peux pas me rendre au studio. Et à vous, chers auditeurs, je vais dire, comme d'habitude, à la prochaine fois. Même endroit, même heure.